Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié dans la collection Folio Essai. On n'y voit rien, description de Daniel Arras est un livre de critique et de théorie de art consacré aux conditions du regard devant la peinture. Historien de art moderne, Arras ne propose ni un manuel systématique, ni une histoire linéaire des œuvres. Il construit 6 courts récits ou enquêtes autour de tableaux, allant notamment de Titien et Velázquez à Bruegel et Tintoret. Son objet est moins de fixer une signification définitive que de suivre les difficultés réelles de la perception, un détail résiste, une évidence visuelle devient ambiguë. Une description révèle ce que le spectateur avait négligé. Le titre formule ainsi un paradoxe central, regarder une peinture ne garantit pas que nous voyons ce qu'elle montre. Par une écriture vive, souvent dialoguée et polémique, le livre interroge les méthodes de histoire de art, les usages de l'iconographie et la part de imagination dans toute interprétation. Il invite à considérer le tableau comme une expérience active plutôt que comme une image immédiatement transparente. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le paradoxe du visible regardé ne suffit pas à voir. Le point de départ de Arras est une dissociation décisive entre la présence matérielle de l'image et sa compréhension. Un tableau peut sembler immédiatement lisible parce que ses figures, ses objets ou son récit paraissent reconnaissables. Pourtant, cette reconnaissance rapide peut empêcher de remarquer une anomalie de composition, un geste, une position ou un détail qui modifie le sens de l'ensemble. Le titre « On n'y voit rien » ne signifie donc pas que la peinture serait vide de contenu. Il désigne plutôt la limite d'un regard trop assuré de lui-même. La peinture produit des évidences visuelles, mais elle peut simultanément les défaire et obliger le spectateur à revenir sur sa première impression. Cette idée a une conséquence méthodologique importante à interpréter, ne consiste pas seulement à appliquer un savoir externe sur une œuvre. Il faut décrire avec précision ce qui est effectivement donné à voir, reconnaître les incertitudes de cette description et mesurer les effets de l'attention sélective. Arras fait de cette hésitation une ressource critique. Elle évite de réduire le tableau à une illustration de thème ou à une simple source documentaire. La vision devient un travail de vérification, de comparaison et de reprise, où le doute sur ce que l'on a vu ouvre la possibilité de mieux voir. Deuxièmement, 6 enquêtes narratives plutôt qu'un traité de méthode, la forme du livre est essentielle à son projet. Arras organise son étude en 6 courtes fictions narratives présentées comme des enquêtes sur des évidences du visible. Ce choix éloigne le livre du traité académique qui exposerait des règles générales avant de les appliquer. Le lecteur est placé au contraire dans une situation de recherche, une question surgit devant une image, des hypothèses se forment. Puis, elles sont soumises aux contraintes du tableau, de son contexte et des débats savants. La narration ne sert pas seulement à rendre le propos plus vivant. Elle montre que le savoir sur les œuvres avance rarement de façon rectiligne. Il implique des retours, des objections et des déplacements de perspective. Cette structure rend sensible la temporalité du regard, voire est aussi apprendre à suspendre une conclusion trop rapide. Les récits permettent en outre de mettre en scène la distance entre le spectateur contemporain et des peintures issues de traditions religieuses, politiques ou artistiques différentes. Arras ne prétend pas supprimer cette distance par une explication totale. Il examine comment elle peut être travaillée. Le livre se distingue ainsi par une critique en acte, où les procédures d'interprétation deviennent perceptibles au lieu de rester cachées derrière un résultat final. Troisièmement, la description comme instrument critique de l'interprétation, chez Arras, ne constitue pas une étape neutre et secondaire avant analyse. Décrire une peinture oblige à choisir un ordre, à nommer des formes, à distinguer les relations spatiales et à traduire une expérience visuelle dans le langage. Or, ces opérations révèlent déjà des difficultés, certains détails sont difficiles à isoler, certaines figures changent de fonction selon la distance ou le point de vue. Et les mots peuvent donner une cohérence prématurée à ce qui demeure équivoque. Le sous-titre description signale cette attention à la médiation du discours. Une interprétation rigoureuse doit pouvoir revenir à ce qui est visible, sans confondre le tableau avec le commentaire qui le recouvre. Mais Arras ne défend pas pour autant une vision pure, indépendante de tout savoir. Les connaissances historiques, techniques et iconographiques éclairent les œuvres. Elles deviennent problématiques lorsqu'elles prétendent fermer le jeu de la perception ou résoudre chaque élément par une identification automatique. La description agit donc comme un contrôle critique. Elle oblige le commentateur à expliciter ce qu'il observe réellement, à distinguer constats et hypothèses, puis à évaluer si le sens proposé répond à organisation de l'image. Cette exigence donne au livre sa portée durable pour la lecture des images, même hors du domaine spécialisé de la Renaissance et de la peinture moderne. Quatrièmement, des détails picturaux qui déplacent le sens de l'ensemble, les peintures examinées, de Titien et Tintoret à Bruegel et Velázquez, ont en commun de faire vaciller une lecture globale trop stable. Arras attire attention sur des éléments localisés qui ne sont pas de simples ornements, un détail peut perturber le récit apparent. Déplacer le rapport entre les personnages ou révéler une tension dans la construction d'espace. Cette démarche ne revient pas à célébrer le détail pour lui-même. Un agrandissement isolé ou une curiosité érudite risquerait de perdre la logique de ensemble. Le détail compte parce qu'il entre en relation avec le format, la composition, les gestes, les regards et les attentes du spectateur. Il peut faire apparaître un écart entre ce que le tableau semble raconter et ce qu'il fait visuellement. Cette attention rend également justice à la puissance propre de la peinture. Une image ne communique pas seulement des informations transposables, en mots, elle organise des effets de présence, de distance, de surprise et de trouble. En suivant ces effets, Arras résiste à la tentation de réduire les œuvres à un programme iconographique préétabli. Son analyse rappelle que la signification picturale se joue aussi dans la manière dont une forme est placée, rendue visible ou partiellement dérobée. Le regard doit donc circuler entre le fragment et la totalité. En dernier lieu, une discussion exigeante avec les réflexes de iconographie. Le livre prend place dans des débats sur les méthodes de histoire de art, notamment autour de l'iconographie. Identifier des sujets, des attributs ou des sources textuelles demeure souvent indispensable pour situer une peinture. Arras ne rejette pas ce savoir. Ses analyses reposent au contraire sur une connaissance précise des traditions artistiques et culturelles. Sa réserve porte sur un usage mécanique de l'identification lorsque le tableau est traité comme un rébus dont chaque élément recevrait une équivalence fixe. Une telle méthode risque de négliger ce que la mise en peinture transforme une même figure, un même récit ou un même symbole, acquiert une portée différente selon son emplacement, son échelle, sa couleur ou sa relation aux autres formes. La discussion avec les collègues et les conventions disciplinaires donne parfois au texte une tonalité polémique. Elle rappelle que les interprétations ne sont jamais seulement des évidences. Elles engagent des choix de méthode, des habitudes de vocabulaire et des critères de preuve. Pour le lecteur, l'intérêt de cette position tient à son équilibre difficile, ne pas abandonner le contexte historique, mais ne pas laisser ce contexte parler à la place de l'image. Arras défend ainsi une histoire de art attentive au savoir, tout en restant disponible à ce qui résiste à leur catégorie. En conclusion, On n'y voit rien s'adresse en priorité aux lecteurs qui souhaitent approfondir leur relation à la peinture de la Renaissance et de l'âge moderne, ainsi qu'aux étudiants. Amateur averti et praticien de la critique visuelle, il peut également intéresser un public moins spécialisé, à condition d'accepter que certaines références, certains noms et les débats entre historiens de art ne soient pas toujours introduits de manière élémentaire. Le bénéfice principal du livre est intellectuel et pratique, il apprend à ralentir devant une image, à séparer observation, description et hypothèse, puis à comprendre pourquoi une interprétation doit être justifiée par la forme même du tableau. Il ne fournit pas une grille facile à reproduire, mais développe une vigilance qui peut être transposée à de nombreuses images. Sa singularité parmi les livres de vulgarisation en histoire de art réside dans l'alliance de érudition, de mise en récit et de réflexivité méthodologique. Là où un ouvrage classique présente artistes, périodes et significations établies, Arras expose les frottements de actes interprétatifs, ce que le regard manque, ce que le détail dérange et ce que le discours risque de simplifier. Cette exigence rend la lecture plus dense que celle d'un simple guide de musée, mais aussi plus féconde. Le livre se distingue finalement par sa capacité à faire de la difficulté de voir non un défaut du spectateur, mais le point de départ nécessaire d'une attention plus juste au pouvoir de la peinture. Si vous souhaitez soutenir Daniel Arras, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.